VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 12 septembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
En République démocratique du Congo, le G7, qui appuie le candidat Moïse Katumbi, accuse la majorité présidentielle de tracasserie.
En Guinée-Bissau, le plan de sortie de crise a été adopté après une visite d'une délégation de haut rang de la CEDEAO.
En Libye, crainte d'une escalade de la violence après la prise des deux plus importants terminaux du pays par les forces du général Khalifa Haftar.
En Arabie Saoudite, plus de 1,8 million de pèlerins célèbrent ce lundi l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice d'Abraham.
En Syrie, la trêve conclue entre la Russie et les États-Unis doit entrer en vigueur ce lundi à 16h, temps universel.
Présidentielle américaine, Hillary Clinton annule ses déplacements prévus aujourd'hui et demain après un malaise lors de la commémoration du 11 septembre à New York.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, le G7, un regroupement politique de l'opposition qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle, a accusé la majorité présidentielle d'avoir empêché l'avion de son président, Charles Mwandon Simba, d'atterrir hier à Kalemie dans le Haut-Katanga. Ce régulier de la compagnie CAA a finalement atterri à Bukavu, au sud Kivu. Au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, Pierre Lumbi, vice-président en exercice du G7.
L'avion qui transportait le président du G7, Mwando Simba, accompagné d'une délégation de 7 personnes, en plus de 27 autres passagers de Lubumbashi vers Kalemie, a été détourné sur ordre du gouverneur vers Bukavu, où il avait atterri à 11h12. Son avion a été empêché d'atterrir à Kalemie, où il était attendu pour une réunion de travail. C'est la deuxième fois que M. Mwandon Simba, député national, est empêché d'aller à la rencontre des citoyens congolais de sa circonscription, et cela est inacceptable. Nous condamnons de la façon la plus ferme ce genre de pratiques qui n'ont jamais rien arrangé nulle part, ni à l'époque coloniale, ni pendant le règne de Mobutu. Nous espérons que la majorité n'est pas en train de transformer notre pays en goulag. Il faut que la majorité arrête avec cette politique de la terre brûlée, cette arrogance qui ne place pas le peuple congolais au centre de ses préoccupations. Je profite de cette tribune pour démentir catégoriquement une rumeur qui affirmerait que j'ai, moi, Pierre Lumbi, rencontré le chef de l'État. Monsieur le président Kabila n'est pas mon ennemi et il n'est pas non plus un diable. Il est une personne avec qui j'ai travaillé de nombreuses années et que je respecte. S'il me demandait de le rencontrer, je ne m'en cacherai pas et je le ferai. J'irai lui rappeler ce que je lui ai déjà dit il y a un an. Sa grandeur ne sera que renforcée s'il faisait lui-même respecter et appliquer la constitution congolaise sur laquelle il a prêté serment.
C'était Pierre Lumbi, vice-président en exercice du G7, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le plan de sortie de crise proposé par la CEDEAO pour la Guinée-Bissau a été adopté dans son intégralité suite aux discussions tenues à Bissau ce week-end entre les acteurs politiques locaux et une délégation de haut rang conduite par les chefs d'État Alpha Condé de Guinée et Ernest Bai Koroma de Sierra Leone. Précision de notre correspondant Noura Mankali.
Cette mission présidentielle a tenu une séance de travail avec les différents acteurs politiques, comme l'a souligné dans le communiqué final le ministre d'État et secrétaire général de la République de la Guinée-Conakry, Ibrahim Camara.
Après toutes ces concertations, le plan de sortie de crise proposé par la mission ministérielle de la CEDEAO a été adopté à l'unanimité et dans son intégralité. Réunir toutes les parties prenantes autour d'une table de dialogue inclusif sur la base d'une plateforme réunissant les 15 députés dissidents, le PAIGC, le PRS, les autres partis, la société civile, les chefs religieux et coutumiers. Former un gouvernement inclusif, engager la réforme de la Constitution, des lois électorales, de la charte des partis politiques, la réforme de l'administration territoriale et le renforcement de la justice pour plus de crédibilité.
Après le séjour de 24 heures, la mission présidentielle est repartie.
Nouaman Kalibissau, VOA Afrique.
En Libye, le gouvernement d'Union nationale, soutenu par la communauté internationale, a appelé hier ses forces à reprendre deux importants terminaux pétroliers tombés aux mains de troupes rivales, ce qui fait craindre une escalade de la violence dans un pays en pleine tourmente. Les troupes du général Khalifa Haftar, chef de l'armée liée au gouvernement non reconnu, basé dans l'est du pays, ont lancé hier matin une offensive surprise contre les forces fidèles au gouvernement d'Union nationale, s'emparant des terminaux d'Al-Sedra et de Ras Lanouf, les plus importants du pays.
Environ 1100 migrants ont été secourus hier au large de la Libye, ce qui porte le total du week-end à 3400, ont annoncé les gardes-côtes italiens qui coordonnent les opérations dans cette partie de la Méditerranée.
Au moins 16 personnes ont été tuées et 253 blessées dans la province de Kagera, dans le nord-ouest de la Tanzanie, frappée samedi par un séisme, a appris l'AFP hier auprès du gouverneur de la province de Kagera.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 1 800 000 personnes, des pèlerins musulmans, célèbrent ce lundi l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, et se consacrent au rituel de la lapidation de Satan à Mina. La lapidation, lors de laquelle les pèlerins jettent symboliquement des cailloux sur des stèles, va constituer un moment à haut risque du Hajj. Le 24 septembre 2015, le rituel avait tourné au cauchemar. Quelques 2300 pèlerins, dont 464 Iraniens, avaient péri dans une gigantesque bousculade.
En Syrie, la trêve conclue entre la Russie et les États-Unis doit entrer en vigueur ce lundi à 16h temps universel, coïncidant donc avec l'Aïd al-Adha. Cependant, la situation reste précaire sur le terrain quelques heures avant la cessation des hostilités. Jean-Roger Bion.
L'accord signé vendredi à Genève prévoit un arrêt des combats pendant 48 heures à partir de 19h locales ce soir, soit 16h temps universel. Si elle tient, elle pourrait être renouvelée de nouveau pour 48 heures, a précisé le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, qui a négocié le document avec son homologue américain John Kerry. Si le régime de Bachar al-Assad et des alliés de Damas, tels que l'Iran et le Hezbollah libanais, l'ont salué et appelé à sa pleine application jusqu'à hier soir, la plupart des dirigeants de l'opposition politique et de la rébellion armée n'avaient toujours pas réagi officiellement. En revanche, le groupe Ahrar al-Sham, influent en Syrie, a rejeté l'accord, estimant qu'il ne fera que renforcer le régime de Damas et augmenter la souffrance du peuple. L'annonce de cette trêve après des semaines de discussions entre les États-Unis et la Russie, qui soutiennent respectivement l'opposition et le régime, intervient au moment où les insurgés sont en difficulté sur le terrain après avoir perdu la dernière bataille d'Alep. Sur le terrain, les raids aériens et les bombardements au sol se sont poursuivis hier, faisant de nouvelles victimes civiles. Comme le rappelle l'AFP, un premier accord russo-américain de cessation des hostilités, entré en vigueur le 27 février, avait volé en éclats après des violations répétées des belligérants.
Les États-Unis ont commémoré hier le 15e anniversaire des attentats du 11 septembre avec une minute de silence à Ground Zero à New York. Participer à la cérémonie, Hillary Clinton et Donald Trump, les deux candidats à la présidence. Cependant, la candidate démocrate a éprouvé un malaise, l'obligeant à quitter la cérémonie après 90 minutes pour se rendre chez sa fille Stelcia. Son équipe de campagne a annoncé que Mme Clinton a annulé un déplacement qu'elle devait effectuer ce lundi et mardi en Californie en raison de la pneumonie dont elle souffre.
La révélation tardive de la pneumonie deux jours après le diagnostic devrait relancer les critiques sur le manque relatif de transparence de Mme Clinton, qui fête bientôt ses 69 ans, sur sa santé.
La Minute Écho, John Linden.
Le nouveau premier ministre tunisien Youssef Chahed a décidé de diminuer les rémunérations de la quarantaine de ministres et secrétaires d'État que compte son gouvernement. Cette action menée par Solidarité avec la Tunisie, dont l'économie est en difficulté, permettra de retenir environ 400 euros sur les revenus de chaque ministre. Le taux de chômage en Tunisie est resté très élevé, plus de 15%, surtout chez les jeunes, et la croissance n'a été que de 0,8% en 2015. Plusieurs bailleurs de fonds et investisseurs réunis à la 6e édition du Forum sur la révolution verte ont annoncé des engagements cumulés de 30 milliards de dollars sur 10 ans pour accroître la production agricole. 24 milliards de dollars viendront de la Banque africaine de développement, déjà très active dans le domaine dans des pays comme le Bénin, le Maroc ou le Cameroun. La Société financière internationale a accordé un prêt de 200 millions de dollars aux producteurs guinéens de bauxite. Ce financement entre dans le cadre d'un vaste plan d'expansion d'une valeur de 1 milliard de dollars.
À présent, notre page sport avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
On démarre par l'athlétisme et la dernière étape de la Ligue de Diamants à Bruxelles. L'occasion pour les Africains de briller.
Oui, victoire et cinquième meilleure performance de l'histoire pour l'Éthiopienne Almaz Ayana, 14 minutes 18 secondes 89 centièmes, nouveau record du meeting. Elle domine la Ligue de Diamants après son spectaculaire titre olympique sur 10 000 mètres. La Sud-Africaine Caster Semenya s'impose, elle, sur 400 mètres en 50 secondes 40 centièmes, nouveau record personnel pour celle qui a remporté cette Ligue de Diamants sur 800 mètres. Chez les hommes, son compatriote Louvo Mayonga en saut en longueur atteint les 8,48 m et termine à la troisième place. Victoire en revanche pour le Kenyan Conselsus Kipruto, vainqueur sur 3000 m steeple. Son compatriote Timothy Cheruyo, c'est lui à juger les 1500 m.
On reste dans l'univers de l'athlétisme et direction Rio avec les Jeux paralympiques. Et là encore, les athlètes africains ont su briller.
Moisson de médailles grâce à de belles performances pour plusieurs athlètes du continent. À noter le carton plein des Tunisiennes au lancer avec un doublé pour les lanceuses de poids de petite taille. Rawa Tlili Impérial s'est offert un troisième titre paralympique consécutif après Pékin et Londres avec un G à 10,19 m, loin devant sa jeune compatriote Sama Ben Kaoulab, deuxième avec 8,39 m. Autre titre pour la Tunisie au lancer de massue en fauteuil, Marwa Brahmi a porté le record du monde à 26,93 m à son dernier essai pour l'emporter devant l'Algérienne Mounia Ghazmi. Resté à 25,41 m. Belle médaille d'argent pour le sprinteur malvoyant namibien Johannes Nambala sur le 100 mètres en 10 secondes 78. A noter également la médaille de bronze du Cap-Verdien Tavares Barbosa sur le 400 mètres réservé aux déficients intellectuels en 48 secondes 55 centièmes. Ajoutons la médaille d'or remportée par le Tunisien Abes Saïdi sur les 1500 mètres avec un chrono de 4 minutes 13 secondes 81 centièmes.
Football. L'AS Tanda est sacré champion de la Côte d'Ivoire.
Exactement, puisque c'est à l'issue de la dernière journée de ce championnat que le club basé dans la région de Gontungo a conservé son titre. Une belle histoire qui continue pour l'AS Tanda promu dans l'élite du foot ivoirien seulement il y a 2 ans. C'est grâce à sa victoire de 1-0 à domicile face à CO Corogo que le club de l'Est du pays a terminé sa saison devant le Sewi Sport de San Pedro et le Sporting Club de Gayoa. Déception par contre pour la SEC Mimosa qui finit la saison à la 6e place, mais jouera tout de même la Coupe CAF la saison prochaine.
C'est terminé en Côte d'Ivoire. En revanche, au Togo, le championnat reprend enfin ses droits et ce, après 2 ans de suspension.
Et 7 matchs étaient au programme. Le champion en titre, Semasi de Sokodé, contraint au partage des points à Lomé devant AS OTR, score 0-0. Par contre, Maranatha est allé battre Tito 1-0, tout comme Agaza à Dapoang devant Fouadan. La belle opération de cette première journée est pour Kouroukine de Chamba, vainqueur de l'équipe de Nosté Ange 3-0 et prend du coup la tête du classement. Autre résultat, Bikenti bat Asco de Kara 2-0 et puis nul 1-0 entre Gourmindo de Palimé et l'Est de Gopo de Lomé. Première journée également en Tunisie et belle entame des favoris. Le champion titre, l'Étoile du Sahel, est venu à bout de l'Espérance de Zazi 3-0 dans le groupe A. Dans ce groupe, le club sportif sarcien a eu raison de Sidi Bouzid 1-0. Dans le groupe B, l'Espérance de Tunis a battu difficilement devant le stade gabésien 2-1. Et puis troisième journée en Algérie et le leader USM Alger a été tenu en échec par DRB 0-0. L'entente de Sétif vainqueur de Médéa 1-0 totalise le même nombre de points 7 avec le leader USM.
Futsal à présent avec le mondial qui se dispute en Colombie. Et l'Égypte a bien démarré.
Oui, les Égyptiens ont su classer Cuba 7-1. Ils ont bien entamé cette compétition qui verra également la participation de deux autres pays africains, à savoir le Maroc et le Mozambique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Crise financière au Tchad, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour renflouer les caisses de l'État. Des mesures qui tendent à réduire le train de vie de l'État et incluent une restructuration de certaines institutions étatiques considérées comme budgétivores. Les réactions avec notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar.
Ces mesures visent à réduire de 50% les indemnités des députés à l'Assemblée nationale. Les décrétés, quant à eux, verront leur indemnité réduite de 80%. Pour Younous Mahadir, président du syndicat national des travailleurs des affaires sociales et sanitaires et vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, ces mesures inventées par le gouvernement vont provoquer dans les jours à venir des tensions sociales qui seront difficiles à maîtriser.
Dans ce pays, l'argent est là, la douane et les fiscalités. Les impôts. Les gens qui gèrent ça, là, mettent de l'argent dans leur poche. On va arriver à nous amputer nos primes, nos indemnités et tout. Mais ils ne savent pas que ça, ce sont des acquis. Tant qu'on ne partira pas profondément dans ces recherches de collecte de sous, nous, on ne va pas accepter qu'on touche à nos acquis.
Mahamat Nour Ibedou, inspecteur de trésor, propose une autre alternative au gouvernement pour juguler cette crise.
Nous avions essayé de faire un peu de simulation. On s'est retrouvé avec 1/8 de dépenses. Il faudrait mener une vérification normale de tous les biens. Parce qu'ils sont connus, les gens qui ont détourné. Rapatrier tous les fonds stockés à l'étranger, dans les paradis fiscaux. Il faudrait qu'on démantèle le réseau laissé par M. Salahi Devi, le petit frère du président. Parce que avant l'avènement du pétrole, la douane faisait 70% de nos recettes. Donc, il n'y a pas de raison que cette fois-ci, elle n'en fasse pas.
Béral Mbaïkoubou, député à l'Assemblée nationale, trouve cette décision injuste et dénonce la manière avec laquelle cette mesure a été prise.
Il est quand même offusquant que pendant les périodes glorieuses, c'est une infime partie de privilégiés indus qui profitent de la grosse manne sans souci du lendemain et au moment de faire face donc aux casses, l'on demande que la contribution sacrificielle soit beaucoup plus générale. Je pense que à ce niveau, il y a une certaine injustice. Il y a une procédure pour adopter de telles mesures. On ne peut pas simplement consulter de manière expéditive le président de l'Assemblée nationale ou encore les membres du bureau de l'Assemblée pour prendre une décision aussi importante qui concerne le budget de l'État.
Le secrétaire général du syndicat des anciens du Tchad Section de N'Djamena, Ngartoïde Blaise, ne partage pas l'avis du député.
Moi, j'encourage le gouvernement uniquement à réduire même de 100% les indemnités des députés, mais pas les décrétés qui sont des fonctionnaires de l'État. Parce que ce sont ces députés qui ont accompagné le régime dans les votes des décisions impopulaires.
André Kodmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Guinée, l'hydrocéphalie, une maladie qui augmente le périmètre crânien de l'enfant, reste une inquiétude pour les parents. Le traitement n'est pas à la portée de toutes les bourses. Ainsi, le manque de suivi aggrave certains cas et provoque la mort. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara.
C'est une cour fermée d'une annexe. Et la maison d'accueil des mères.
Le centre que présente Mme Fadiga est situé à 50 km de Conakry. S'il est toujours à la charge de l'association des mamans et enfants hydrocéphales de Guinée, depuis quelque temps, pas un seul malade n'y séjourne faute de moyens.
En ce temps, l'ONG marchait bien. On sortait les médicaments ici et donnait à un chauffeur pour leur déposer. Oh, mais quand tout ça là a manqué à la structure, les parents nous appellent, mon enfant est tombé malade, je suis allé, on m'a demandé si c'est cela. Donc, par fini, on nous appelle que l'enfant a rendu l'âme. Où mon enfant a faim, n'a pas pu trouver de quoi manger, Donc l'enfant a rendu l'âme.
Le centre d'hébergement offrait une prise en charge en nourriture et en médicaments. Depuis 2012, un peu plus de 300 cas ont été enregistrés. Plus de la moitié sont décédés.
Tous les enfants décédés, ils sont décédés par suite de détresse, par suite de manque de moyens, parce que les parents eux-mêmes ne peuvent pas prendre ces enfants en charge.
Une opération chirurgicale peut coûter jusqu'à 7 millions de francs guinéens, soit 800 dollars. Avec le manque de moyens, l'association se limite à l'orientation des malades. Alpha Cissé est père d'une fille hydrocéphale.
Je suis allé dans un centre de santé à Siguiri. J'ai parlé au docteur que mon enfant souffre. Automatiquement, le docteur Sini m'a dit que Mme Fadiga à une association au niveau de Conakry que nous allons l'appeler pour signaler ce cas. Le docteur m'a dit toujours, tu peux m'appeler à tout moment que tu veux. Donc bien, on fera en sorte pour que l'enfant s'en sorte, pour attraper de porte en porte, pour trouver des bonnes volontés pour s'occuper de l'enfant.
Madame Fadiga et Alpha Cissé ont obtenu l'argent nécessaire pour les frais d'hospitalisation de l'enfant. Mais cette chance n'est pas donnée à tous les malades. Certains enfants sont stigmatisés et rejetés par l'entourage. Ils sont assimilés aux démons. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Une toute nouvelle découverte scientifique apporte de l'espoir dans la lutte contre le paludisme. Le point faible du parasite responsable de l'infection aurait été identifié et les expériences menées sur des souris sont concluantes. Des précisions, Anastasie Toudièche.
Le paludisme, dû à un parasite transmis par les piqûres de moustiques, touche plus de 200 millions de personnes chaque année. Une fois qu'il a infecté son hôte humain, le Plasmodium falciparum, nom scientifique du parasite, évolue en plusieurs étapes, de l'infection du sang à l'infiltration du foie où il mûrit, puis pénètre à nouveau le sang qui l'infecte. Il détruit alors les globules rouges, libérant dans le sang des milliers de parasites filles qui envahissent les autres cellules, perpétuant le cycle de reproduction et d'infection. C'est lors de ce dernier stade que les symptômes du paludisme apparaissent. Très forte fièvre, transpiration excessive, nausées et diarrhée. Plus d'un demi-million d'individus succombent, la plupart sont des enfants, en Afrique subsaharienne. À chaque étape de son évolution, le Plasmodium falciparum, qui peut devenir résistant aux médicaments, change. La plupart des traitements visent l'une ou l'autre des étapes. Mais les chercheurs du Broad Institute dans le Massachusetts et de l'université Harvard ont isolé un élément qui semble être le talon d'Achille de la maladie, selon Stuart Schreiber, membre fondateur du Centre biomédical.
Nous avons découvert une nouvelle protéine fabriquée par le parasite, une protéine dont il a besoin pour les trois étapes de son cycle de vie, et aussi une série de nouveaux composants qui pourraient inhiber la dite protéine.
Stuart Schreiber et ses collègues ont publié leur découverte dans le journal Nature. Après avoir découvert la protéine, les chercheurs ont recensé 100 000 petites molécules à partir desquelles ils ont synthétisé une douzaine de composants qui semblent bloquer la synthèse de la protéine et ce, à chaque étape de son développement, ce qui tue le parasite, sur la souris témoin du moins. Les souris n'ont présenté aucun signe d'infection pendant un mois, délai considéré comme un signe de rémission. Quand les chercheurs ont tenté d'infecter des souris avec le sang de rongeurs anciennement contaminés, ils ont constaté qu'elles n'avaient pas développé de paludisme. Le composant que les scientifiques ont testé était une prise unique, par voie orale. Stuart Schreiber ajoute, prudent, que ce qui est efficace sur une souris ne l'est pas forcément sur un humain. Mais il y a de l'espoir.
So I'm the eternal optimist.
Je suis un éternel optimiste, mais je sais que des grands défis nous attendent et aussi de grandes inconnues qu'on ne pourra régler qu'en faisant des expériences.
Des expériences qui comprennent l'analyse des 12 composants, comment ils fonctionnent, combien de temps et si des résistances se développent contre l'un de ces agents prometteurs. En théorie, Schreiber dit que le médicament, qui est efficace aux trois étapes du paludisme, peut être pris à tout moment du cycle, à la fois comme un traitement et comme prévention. Les chercheurs notent que les patients peuvent rester infectés, même sous traitement. Les informations sur ces composants anti-paludisme sont disponibles pour les chercheurs, en ligne et gratuitement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La Guinée, pour revenir dans ce pays, redouble d'efforts dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et pour cause, le taux de prévalence des MGF dans le pays est de plus de 96% selon les derniers chiffres. Nathalie Barge a joint la ministre guinéenne de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, Sanaba Kaba, en pleine campagne de sensibilisation contre l'excision.
On est en train de se battre pour reprendre le sondage en 2017 et j'espère qu'on va trouver un chiffre totalement en deçà de ces chiffres. On est sur le terrain, on continue à mener des enquêtes et même on va dans le groupe des femmes pour savoir quelle est la position de ces femmes par rapport à ce phénomène. Il n'y a pas plus que le lundi passé, nous étions dans la plus grande commune de la capitale. Je vais parler de la commune de Makoto, qui est même la plus grande commune de notre pays, qui a bénéficié d'une petite assistance de notre département pour organiser une campagne de sensibilisation dans la commune. Là, on était très surprise. La salle a adhéré à toutes les explications qu'on donnait. Et ces femmes sont des femmes leaders. 50 personnes qu'on a mobilisées pour leur donner des arguments nécessaires pour pouvoir convaincre leur base. Toutes ces femmes, chacune individuellement plus, peut avoir une centaine de femmes derrière elles. Tout ça fait des espoirs pour nous, elles viennent. Ça veut dire déjà qu'on adhère à l'idée.
Madame la ministre, en fait, ces chiffres datent de 2012, c'est ça?
Exactement, ces chiffres, c'est le sondage de 2012.
Donc vous pensez qu'en l'espace de 4 ans à peine, il y aurait eu effectivement beaucoup de progrès? Ça, c'est votre sentiment?
En 4 ans, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ouais. Aujourd'hui, les religieux sont de notre côté. Mmh. Avant, ça ne pouvait pas être possible. Le secrétariat général des affaires religieuses, à la veille des vacances, a lancé une vaste campagne de sensibilisation. Tous ces efforts ne peuvent pas rester en vain en maintenant le chiffre de 97% de 2012.
Quelle est la peine requise en Guinée, selon la loi, pour quelqu'un qui pratique ou qui fait pratiquer l'excision?
La condamnation varie de 3 mois à 5 ans. Nous bénéficions du soutien total et indéfectible du ministère de la Justice. Quand il y a des alertes, tout de suite, quand ils sont informés, ils se joignent à nous vraiment pour prendre les dispositions nécessaires. Je pense que ça, c'est déjà un atout. La rigueur de la loi, ça va se suivre. Nous sommes dans les processus.
L'interdiction de l'excision n'est-elle pas inscrite dans le Code de l'enfant?
Bon, maintenant, on est en révision du Code de l'enfant et il y a le Code civil qui est en train d'être révisé aussi. On est en train de tenir compte de tous ces facteurs pour vraiment nous rendre plus forts et plus réactifs sur le terrain.
C'était Sanaba Kaba, ministre guinéenne de l'Action sociale, jointe à Conakry.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, c'est Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love?
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.